On rentre maintenant dans le chapitre suivant, chapitre 14, vous avez l'affiche, l'envoi de l'Esprit Saint lors de la Pentecôte et la naissance de l'Église. Vous avez une fiche? Peut-être donner une fiche. Alors, on va entendre, non. On va entendre le texte du récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Jésus a annoncé à ses disciples la venue de l'Esprit Saint, hein, au début des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 7 et 8. Jésus leur dit, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus avait demandé aux apôtres d'attendre à Jérusalem le don de l'Esprit Saint, la promesse du Père. Et juste avant, on avait cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. On était au chapitre 1 et au chapitre 2, on entend le récit suivant. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, Pentecôte en grec, ça veut dire 50, c'est la fête juive qui suit 50 jours après la fête de Pâques. Ils se trouvaient réunis tous ensemble. Donc là, ce sont les apôtres avec Marie, dont on entend les noms juste au-dessus. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait, dans son propre dialecte, ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela signifie? D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout, avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est seulement la troisième heure du jour, 9 heures du matin. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Citation. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Puis Saint-Pierre continue, homme d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles et des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. Et à la fin d'un discours, je ne lis pas l'intégralité, il dit ceci: Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3 000 personnes se joignirent à eux. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Et ils avaient la ferveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Voilà le récit de la Pentecôte, et j'ai lu l'essentiel du discours, mais pas la totalité. Et donc vous avez compris, donc la fête de Pentecôte, qui donc dans la tradition juive arrive 50 jours après la fête de Pâques. Dans la tradition juive, elle célèbre à la fois les moissons et surtout l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse au Sinaï en donnant le don de la loi, vous savez, les tables de la loi, voilà, les 10 commandements. Et dans le livre des Actes des Apôtres, donc on voit que 50 jours après Pâques, c'est 50 jours donc après la résurrection du Christ, ce jour-là, les apôtres reçoivent le don de l'Esprit Saint. Alors on va s'arrêter d'abord sur qui est l'Esprit Saint. Si je vous demandais comme ça, au déboté, micro-trottoir, c'est qui l'Esprit Saint? Qu'est-ce qui fait l'Esprit Saint? Tu dirais quoi? L'Esprit Saint.
C'est Dieu.
L'Esprit Saint, c'est Dieu, ouais.
Et Père, et Fils, Esprit Saint.
Voilà, c'est la troisième personne de la Trinité. On dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur l'Esprit Saint? Qu'est-ce qui fait l'Esprit Saint? Qui c'est? Comment est-ce qu'il agit? Silence.
Les relations entre le Père et le Fils.
Il est la relation entre le Père et le
Il est ce qui
Fils.
circule, il est ce qui se manifeste par le mouvement, par
D'accord.
le lien.
Là, qu'est-ce qu'il fait dans ce texte-là, les Actes des Apôtres? Vas-y. Il unit
le Père et le Fils.
Pas entendu.
Il unit le Père et le Fils.
Il unit le Père et le Fils, il est le lien d'amour, oui, ce que Nicole disait, oui, tu as raison. Ouais.
Il donne la connaissance avec les langues.
Il donne la connaissance du mystère de Dieu. Absolument, l'Esprit Saint est un esprit qui éclaire, qui illumine. Chose que vous voulez dire sur l'Esprit Saint? Vas-y.
C'est un souffle qui descend.
C'est un souffle qui descend. L'image du souffle, elle revient dans la Bible. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Esprit Saint d'autre? L'Esprit Saint, c'est le feu. D'ailleurs, ça apparaît comme des langues de feu. Un feu qui réchauffe, qui éclaire. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, l'Esprit Saint?
Ça nous guide.
Il nous guide, chacun personnellement. Ouais. Donc l'Esprit Saint, il est le lien d'amour qui unit le Père et le Fils. Alors ce qui est un peu difficile pour nous, c'est que quand on parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, on peut avoir une petite idée, parce qu'on a chacun un Père. Alors c'est une idée qui nous aide et qui nous dessert. Parce que si on projette sur Dieu le Père ce qu'on a compris de la relation avec notre propre Père, on va forcément limiter la compréhension du mystère de Dieu. C'est une vraie difficulté, mais en même temps, du coup, on a quand même une petite expérience de la paternité, bon, au sens large. Jésus, le fils du Père, ben, Jésus, il est incarné, donc on peut l'imaginer, voilà. Mais l'Esprit-Saint, on n'arrive pas à l'imaginer. Vous voyez, c'est difficile. En fait, l'Esprit-Saint, on le reconnaît dans une expérience spirituelle. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà une expérience de Dieu dans votre vie. À un moment ou l'autre, il vous a attiré à travers des rencontres, à travers des événements, à travers un songe, à travers... bon. Et donc, rétrospectivement, vous pouvez dire « Ah, Dieu a agi dans ma vie ». Mais ce Dieu qui agit dans votre vie aujourd'hui, en fait, c'est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit de Dieu. Hein. Et parfois, on le découvre après coup en disant « En fait... » Tout à l'heure, quelqu'un me disait ça, me dit « Depuis que je suis baptisé, il y a une paix en moi nouvelle. » Ben, cette paix, c'est le fruit de l'action de l'Esprit-Saint. Il y a une joie nouvelle, il y a un élan nouveau pour vivre, pour aimer. Donc, on voit l'Esprit-Saint au fruit, au signe de ce qu'on perçoit dans notre propre expérience spirituelle. Et parmi les symboles ou les signes de l'Esprit-Saint, effectivement, le premier qui a été nommé tout à l'heure, c'est la question du souffle. Hein. Jésus dit ça à Nicodème, hein, l'Esprit souffle où il veut, on ne sait pas ni d'où il vient ni où il va, donc il est comme le vent. Bon, on voit ses effets, par définition on ne voit pas le vent, on ne voit que les effets du vent. Et puis on se rend compte que dans la Bible, il y a un certain nombre de symboles qui parle de l'Esprit-Saint. L'eau, par exemple. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que sur la croix, le côté de Jésus soit ouvert, laissant jaillir l'eau, hein, qui est un signe de l'Esprit-Saint. D'ailleurs, Jésus l'annoncera. Hein, dans Jean chapitre 7, il le dit, verset 37, le grand jour de la fête, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Et le commentaire que saint Jean fait, en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Bon. Donc, l'eau. D'ailleurs, saint Paul dit, nous sommes abreuvés de l'Esprit. L'Esprit Saint, bon, l'eau, c'est ce qui donne la vie, hein, évidemment. L'eau, donc c'est un des signes. L'onction, dans l'Ancien Testament, on découvre que les prophètes et les rois reçoivent une onction d'huile, le roi David, par exemple, par laquelle le Seigneur vient les habiter pour qu'ils puissent remplir leur mission. Et Jésus lui-même dira qu'il est celui qui a reçu l'onction de l'Esprit, d'ailleurs, dans le baptême, à Pâques, tu as reçu l'onction du Saint-Crème, hein, une huile parfumée consacrée par l'évêque. Et dans la confirmation aussi, il y a une onction d'huile sur la tête de la personne qui est baptisée ou confirmée. Voilà. Et dans cette onction, l'Esprit-Saint est communiqué. L'autre symbole, vous l'avez évoqué, le feu. D'ailleurs, Jean-Baptiste, quand il parle de Jésus, il dit « Il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu ». Et là, on a vu dans les Actes des Apôtres, dans la Pentecôte, c'est sous forme de langue de feu que l'Esprit-Saint est donné. Donc, l'Esprit-Saint est un feu. Bon, un feu qui vient illuminer, mais aussi brûler, quoi. Le fondateur de notre communauté, il disait, il faut que ça brûle, quoi. Si vous voulez de l'Esprit-Saint, il y a un élan, il y a une joie, il y a quelque chose qui se propage aussi. Ce que vous avez reçu, d'autres vont le recevoir par vous, et puis le feu va se propager. L'autre symbole de l'Esprit-Saint, c'est la lumière. Dans le désert, quand le peuple d'Israël, avec Moïse, a quitté l'Égypte pour arriver en Terre Sainte, il y a une mystérieuse nuée lumineuse qui éclaire le jour et la nuit, voilà, qui accompagne une lumière. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure, l'Esprit-Saint nous guide, et nous guide comme une lumière intérieure, et nous conduit à la connaissance de la vérité. Hein. Jésus promet qu'il enverra l'Esprit-Saint pour nous faire connaître la vérité tout entière. C'est aussi une lumière intérieure. D'ailleurs, il y a un symbole de lumière lors du baptême, on reçoit un cierge allumé recevait la lumière du Christ, mais le Christ, c'est qui nous est communiqué par l'Esprit-Saint. Et puis le dernier grand symbole classique, c'est la colombe, parce que au moment du baptême de Jésus, quand Jésus remonte de l'eau, la voix du Père se fait entendre et l'Esprit-Saint apparaît sous la forme d'une colombe. Une colombe qui renvoie dans l'Ancien Testament à l'expérience de Noé qui, à la fin du déluge, envoie une colombe qui lui ramène un rameau d'olivier, montrant que c'est à la fin du déluge que la terre commence à émerger. Et donc, dans l'iconographie chrétienne, quand vous voyez une icône, une image, et que vous voyez une colombe, eh ben, elle représente l'Esprit-Saint. C'est la représentation classique de l'Esprit-Saint. Parce que c'est plus facile de représenter une colombe qu'une lumière, un feu ou une onction, ça ne se représente pas. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans toute l'histoire du salut, en fait, l'Esprit-Saint est présent. Alors, il est présent davantage aujourd'hui, mais dès le récit de la création, hein, le récit de la création qu'on a au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, la création en 7 jours, dès le début, il nous a dit « l'Esprit-Saint, comme un souffle, planait sur les eaux ». Donc, il est présent à la création, comme le souffle qui donne la vie. Et d'ailleurs, quand Dieu crée Adam, c'est dans le deuxième récit, au chapitre 2, il lui fait un souffle de vie, une haleine de vie, un souffle, pour que Adam devienne vivant. Alors, on l'a évoqué aussi en Égypte, donc on a la nuée lumineuse qui accompagne le peuple dans le désert. Bon, on pourrait prendre tous les épisodes de l'histoire dans la Bible du salut, les rois David et accompagnés par l'Esprit-Saint, les prophètes aussi sont accompagnés par l'Esprit-Saint, le Messie annoncé par les prophètes, on nous dit qu'il sera rempli de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force. Bon. Donc, il y a une annonce que le Messie sera habité par l'Esprit-Saint. On a entendu aussi que quand les prophètes annoncent une nouvelle alliance, ils disent que les hommes recevront un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alors dans la Bible, il n'y a pas de minuscule et pas de majuscule. Donc vous l'interprétez comme vous voulez, vous mettez un E minuscule, j'aurai un esprit nouveau, une capacité nouvelle pour comprendre et pour aimer, mais aussi un esprit nouveau avec un grand E, je vais avoir l'esprit de Dieu en moi. Et puis quand on ouvre le Nouveau Testament, en particulier dans l'évangile de Saint-Luc, qui est donc le troisième évangile, il est question de l'Esprit-Saint tout le temps. La Vierge Marie, quand elle reçoit la visite de l'ange qui lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur, l'ange lui dit « l'Esprit-Saint viendra sur toi ». Et puis, dans toutes les pages de cet évangile, Jean-Baptiste est rempli d'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Quand Jésus est baptisé, on l'a dit tout à l'heure, l'Esprit-Saint se manifeste. Et puis, quand Jésus meurt sur la croix, l'évangile de Saint Jean, donc le quatrième évangile, nous dit que Jésus remit l'esprit. C'est un jeu de mots, c'est-à-dire qu'il meurt, il donne son dernier souffle, mais comme le souffle, c'est l'Esprit-Saint, il donne l'Esprit-Saint. Sur la croix, mystérieusement, il nous est dit que Jésus donne son esprit. Et dans le quatrième évangile toujours, l'évangile de Saint Jean, au soir de Pâques, il nous est dit que Jésus souffle sur les apôtres et leur dit « Recevez l'Esprit-Saint ». Et puis on l'a entendu à l'instant dans le récit des Actes des Apôtres. La Pentecôte est l'accomplissement de cette promesse. Jésus avait dit qu'il partirait vers le Père, mais que du Père, il enverrait l'Esprit-Saint. Alors, dans le fond, pourquoi est-ce que Jésus envoie l'Esprit-Saint aux apôtres au jour de la Pentecôte ? Une petite idée ? En fond, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus envoie l'Esprit-Saint et pourquoi est-ce que nous aussi, nous avons besoin de l'Esprit-Saint ? C'est ça la question.
Est-ce que c'est de la foi ? C'est la transmission de la foi, je crois.
Transmission de la foi, oui.
Se transmet la foi.
Oui. Il y a d'autres qui ont des petites idées ? Pourquoi est-ce que, dans le fond...
Tous les apôtres suivaient Jésus et lui qui est là, c'est la façon de dire, suivez-vous, continuez de le suivre.
Absolument. Donc l'Esprit-Saint prend de toute façon le relais de Jésus. D'ailleurs, si vous êtes attentif, regardez le troisième évangile, c'est l'évangile de Saint-Luc. qui raconte la vie de Jésus, qui lui-même est accompagné par l'Esprit-Saint. Et la suite de l'évangile de Saint-Luc, c'est quoi, vous savez, dans la Bible ? C'est les Actes des Apôtres. C'est pas tout à fait dans la Bible, c'est pas le livre d'après, mais en fait, c'est écrit, Saint-Luc dit, dans mon premier livre, j'ai raconté la vie de Jésus, dans mon deuxième, je vais te raconter comment, finalement, l'Esprit-Saint a accompli l'œuvre de Jésus. L'Esprit-Saint vient continuer l'œuvre du Christ dans l'Église. Alors, ce qui est un petit peu difficile, c'est que nous, on imagine trois personnes différentes. Le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Ça nous simplifie la chose. Mais attention, ce n'est pas des personnes autonomes. L'Esprit-Saint, c'est l'Esprit de Jésus. On ne peut pas l'imaginer, hein. C'est l'Esprit de Jésus. Et donc, en fait, il continue et il accomplit l'œuvre de Jésus. Si Jésus était resté sur cette terre, il aurait la possibilité de rencontrer quelques personnes. Alors, comme à la fin, il était ressuscité, ça allait plus vite, il pouvait rencontrer 500 à la fois. D'accord. Mais en partant, il envoie l'Esprit-Saint pour que tous puissent accueillir le don de Dieu, comme une espèce de démultiplication de l'action du Christ par l'Esprit-Saint, je ne sais pas si on peut dire comme ça, théologiquement, mais par l'Esprit-Saint dans le monde entier. Parce que nous, on pourrait dire, mais on n'a pas eu la chance de rencontrer Jésus comme les apôtres l'ont touché il y a 2000 ans. Ok, mais par l'Esprit-Saint, nous pouvons accueillir le don du Christ aujourd'hui, tous. Et donc, l'Esprit-Saint est donné aux apôtres pour que par l'Église, tous les hommes, de tous les siècles, puissent accueillir le don du Christ. Et la médiation, le moyen par lequel ça va se faire, c'est qu'immédiatement, le fruit du don de l'Esprit-Saint, c'est quoi ? C'est que les apôtres annoncent avec force la résurrection de Jésus, alors qu'on vous avait compris, ils étaient cloîtrés, enfermés dans une maison, qu'on appelle le Cénacle, parce qu'ils attendaient l'Esprit-Saint, mais aussi parce qu'ils avaient peur des persécutions quand même. Hein. Jésus finit sur la croix. Hein. Bon. Et ils reçoivent la grâce immédiatement d'annoncer le salut par Jésus mort et ressuscité. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu? Combien de baptêmes? 3000. Et après, ils font quoi, ceux qui sont baptisés? Et quoi? Ceux qui sont baptisés, ils font quoi? Ils constituent la première Église. Et donc, immédiatement, le don de l'Esprit-Saint permet que des apôtres témoignent, que l'Esprit-Saint soit donné aussi à ceux qui écoutent et qui comprennent, alors qu'ils sont de langues différentes, vous avez compris, ils sont de langues différentes, qui comprennent l'annonce, qu'on appelle le kérigme, donc l'annonce de la mort et de la résurrection qui nous sauve, et qu'eux-mêmes, en recevant le don de la foi, ils puissent accueillir le baptême et constituer la première Église. Première Église par laquelle tous ceux qui accueillent le don de la foi seront sauvés. Donc le don de l'Esprit-Saint, il est fait pour que, par l'Église, tous puissent être sauvés. On verra sur la question de l'Église, mais voilà. Et donc l'Esprit-Saint est donné à tous pour, à la suite des apôtres, accueillir la lumière de la vérité en Christ. Et encore une fois, si vous êtes là, c'est que l'Esprit-Saint travaille dans votre cœur. Sinon, vous ne seriez pas resté très longtemps à des séances de cathé, d'autres choses à faire. Bon. Parce que déjà, il y a une lumière qui vous est donnée. Et l'Esprit-Saint, il vous fait des dons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a entendu brièvement tout à l'heure sur le fait que le Messie sera rempli de l'Esprit-Saint, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science et de crainte du Seigneur, ce qui est annoncé par le prophète Isaïe au chapitre 11, en fait, est donné à tous dans le baptême et la confirmation. Nous recevons les dons du Saint-Esprit. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que dans un texte, il y a six dons du Saint-Esprit, et dans la traduction qu'on vous a mis sur la page 3, il y en a sept. Une question de traduction, parce que l'Ancien Testament, qui était écrit en hébreu, a été traduit en grec, 3e siècle avant Jésus-Christ, et que dans la traduction, il y a un septième élément qui apparaît. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les dons du Saint-Esprit nous sont faits pour que nous puissions connaître le mystère de Dieu et que nous puissions y répondre par toute notre vie. Alors, il y a des explications. Alors, l'explication, elle varie selon les auteurs spirituels. Là, je vous ai mis la présentation que le pape François en faisait. Vous pouvez tomber sur d'autres types de présentations qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont différentes. Donc, il est question des sept dons du Saint-Esprit, le don de sagesse, le don d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte du Seigneur. Je les liste rapidement, mais c'est intéressant de comprendre en fait ce qui nous est donné par le baptême et la confirmation, il y en a qui se préparent à la confirmation parmi nous. Bon. Le don de sagesse, c'est le don, la grâce de pouvoir voir les choses avec les yeux de Dieu. Ce n'est pas simplement une sagesse humaine qui serait le fruit de l'expérience, hein, de la connaissance et de l'expérience. C'est comprendre les choses avec le regard de Dieu. Par exemple, c'est de comprendre ce que fait l'Esprit Saint en nous aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si je détaille, mais parfois nous voyons les choses simplement à la hauteur de nos désirs, de nos projets, de nos analyses, mais ce n'est pas le regard de Dieu sur les choses. Oui. Et Dieu voit plus large que nous. Par exemple, une catastrophe ou on peut la voir au sens littéral. Il y a eu un drame, et j'ai un problème de santé, il y a eu etc., un accident, etc. Au secours, c'est très très grave, c'est très grave. Et on peut à un moment comprendre qu'à travers ça, le Seigneur va opérer des choses, va opérer des conversions, va opérer des guérisons, va opérer une solidarité, etc. Et que donc c'est un autre regard, le regard de Dieu sur la réalité des choses. Le don d'intelligence, c'est un peu du même ordre, c'est comprendre les choses comme Dieu les comprend. Aller au-delà de l'aspect extérieur de la réalité pour comprendre comment Dieu va sauver à travers la réalité, à travers les choses. On peut demander au Seigneur qu'il nous le donne, qu'il donne à chacun pour que nous comprenions comme lui il comprend ce qui arrive, et puis surtout que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Quand on a une Bible, on a un texte imprimé. On pense qu'il a été inspiré par l'Esprit Saint, que les auteurs, tout en ayant leur personnalité, leur langage, leur façon de s'exprimer, en fait, ont été conduits par l'Esprit Saint. Ce qui est intéressant, c'est que celui qui le lit, vous, moi, en fait, on peut à un moment comprendre que Dieu nous parle à travers un texte qui a été rédigé il y a 2000 ou 3000 ans. Et là, c'est un don d'intelligence qui permet que l'Esprit Saint me permette, à travers un texte ancien, de me parler aujourd'hui. Le don de conseil, c'est Dieu lui-même qui éclaire notre cœur pour nous faire comprendre la manière la plus juste de parler, de nous comporter. Vous voyez, c'est de l'ordre de l'action. Comment, voilà, je peux agir au mieux pour ne pas être à la merci de mes envies, de mes égoïsmes, de mes habitudes. Et pour cela, j'ai besoin de prier pour que Dieu éclaire lui-même mon cœur sur ce que je peux faire de juste et de bien. Le don de force vient nous soutenir dans notre faiblesse pour que nous soyons fidèles. Je suis en train d'étudier l'histoire des martyrs de Lyon. Parmi les martyrs, il y a la plus célèbre qui s'appelle Sainte Blandine, qui est morte en 177. C'est une petite, elle est esclave, elle est plutôt menue et fragile, et tout le monde dit, celle-là, elle va craquer, hein, sous la torture, elle va forcément renier sa foi. Et tout d'un coup, on voit une petite minette, pas très sûre d'elle, qui a un espèce d'aplomb et de force pour dire, voilà, nous sommes chrétiens, chez nous, il ne se fait rien de mal, et qui affirme la foi chrétienne. Et on voit qu'en elle, ce qui saisit tous ceux qui la voient, c'est qu'il y a quelque chose qui la dépasse, qui lui donne la force de dire la vérité, mais qui n'est pas simplement sa force psychologique à elle, hein, pas simplement le résultat de sa conviction personnelle. Don de force, bon, c'est un exemple particulier, mais voilà. Le don de science nous porte à saisir à travers la création la grandeur et l'amour de Dieu, sa relation profonde avec toutes les créatures. Voilà. Nommer comment Dieu nous aime et s'occupe de nous. Le don de piété nous permet de mesurer quelque chose de notre appartenance à Dieu, de notre lien profond à lui. La piété, vous savez, c'est l'amour de Dieu, hein, l'amour humble et reconnaissant envers Dieu, voilà, qui nous garde ferme, même dans les moments d'épreuve. On passe tous par des moments où la foi n'est pas complètement évidente, mais le Seigneur nous garde dans la foi, c'est ce don de piété. Et puis le don de crainte, c'est pas la peur de Dieu ou d'avoir mal fait, c'est la certitude que Dieu s'occupe de nous et que donc je peux lui faire complètement confiance, c'est l'abandon dans les bras du Père. Voilà. Donc ce sont des façons d'exprimer comment l'Esprit Saint nous conduit pour que nous puissions comprendre l'œuvre de Dieu et qui il est et comment il nous parle, et puis y répondre par toute notre vie pour que nous, voilà, l'Esprit Saint nous conduise. Alors je continue à, voilà, je vous encourage, vous qui vous préparez à la confirmation, à demander les dons du Saint-Esprit. Voilà, on en a besoin et à s'y préparer, voilà, pour que l'Esprit Saint trouve en nous un cœur qui a le désir de vivre de l'Esprit Saint. Vous voyez, il y a un espèce de changement de mode opératoire, si j'ose dire. On peut passer d'un rapport à la religion où on fait des efforts, parce qu'on veut bien faire, et c'est bien. Vous voyez, à un moment, on dit, Seigneur, je vais faire tout ce que je peux, mais j'ai vraiment besoin de ton Esprit Saint pour aimer avec largesse, pour comprendre ta parole, pour répondre à tes appels. Et ça, ce n'est pas à ma mesure. Ma mesure, c'est de désirer, mais c'est toi qui me donneras ton Esprit Saint. Ce qui est très beau, c'est que Jésus dit, demandez et vous recevrez. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Luc chapitre 10. Et donc, on sait que quand on demande l'Esprit Saint, il nous est donné. Et par les sacrements, le baptême et la confirmation, il nous est donné de façon permanente et stable. Je termine sur la dernière partie de cette catéchèse. L'Esprit Saint qui est donné aux apôtres est donné pour faire d'eux des saints et des missionnaires, mais pas tout seul. Le désir profond de Dieu, c'est que nous soyons unis dans l'amour, et cette union dans l'amour, ça s'appelle l'Église. On voit à Pentecôte naître l'Église, on avait 12 apôtres au pied de la croix, et puis voilà, et puis bon. Et tout d'un coup, ces bons hommes, quand on regarde leur pédigré, si j'ose dire, ils sont extrêmement différents les uns des autres. Et en fait, par l'Esprit Saint, il y a une unité qui leur est donnée en Dieu, et un lien très fort entre eux, qui va leur permettre à la fois d'être fidèles à Dieu, et en même temps, ensemble, d'être témoins du Christ. Ceux qui étaient là à la dernière rencontre de l'ICA ont eu une présentation de la hiérarchie de l'Église, avec le pape, des évêques, des prêtres, etc. Une présentation qui a son intérêt, mais qui a aussi une grosse limite. Parce que l'Église, ce n'est pas d'abord une hiérarchie, ce n'est pas d'abord une organisation. C'est d'abord un corps, c'est d'abord une famille, hein, une expression qui consiste à dire que l'Église, c'est la famille de Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Le Christ nous a rassemblés. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché au moment de ma conversion, c'est de découvrir que des gens avec qui j'avais quand même pas grand-chose à voir. Moi, j'avais 24 ans, ils en avaient 60. J'étais célibataire, ils étaient grands-parents, ou ils étaient voilà. On n'est pas du même milieu, et tout d'un coup, on est frères et sœurs. C'est donné comme une expérience intérieure et concrète, parce que concrètement, on mange ensemble, on se reçoit, on se rend service, on prie ensemble, enfin, c'était très concret, avec des gens avec qui, initialement, je n'ai pas d'éléments de culture en commun, quoi. Bon. Et puis, quand on voyage un peu, vous avez peut-être fait l'expérience, des gens avec qui vous ne parlez pas du tout la même langue, vous découvrez qu'ils sont frères et sœurs en Christ, et vous accueillent comme tels. C'est incroyable, incroyable. Et donc l'Esprit Saint constitue un corps qu'est l'Église, qui est d'ailleurs le signe de l'unité que Dieu veut réaliser dans toute l'humanité. L'Église, elle est comme le ferment de l'unité. Dans le monde dans lequel on est, avec les guerres qu'on connaît, là, on a bien besoin de ça. Et ce qui est magnifique, c'est que il n'y a pas d'autre réalité au niveau sociologique dans le monde qui puisse réunir tout le monde. Ça n'existe pas. Le seul lieu d'unité de toute l'humanité, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est très intéressant de le comprendre. L'Église, le mot Église, ça veut dire convocation. Donc c'est la réunion de tous ceux que l'Esprit Saint convoque pour former le peuple de Dieu, qui deviennent ensemble le corps du Christ et le temple de l'Esprit. On est le peuple de Dieu, le corps du Christ, on est les membres du corps. Alors, c'est un peu difficile à comprendre, mais on est les membres d'un même corps, et chacun agit en union avec les autres. Et le temple de l'Esprit Saint, ça fait référence au fait que à Jérusalem, il y avait un temple qui a été détruit, mais au temps de Jésus, il y avait encore le temple, qui était le temple après celui de Salomon, dans lequel l'Esprit Saint était rentré pendant une liturgie. Et donc, nous sommes le temple dans lequel habite l'Esprit Saint. On devient membre de ce peuple par le baptême et par la foi. Et qui est le chef de l'Église ? Eh bien, ce n'est pas le pape. C'est le Christ. C'est pour ça que la présentation pyramidale de l'Église en disant « Vous avez le patron, c'est le pape, ensuite les évêques, ensuite les prêtres, et puis en bas, le peuple de Dieu. » Non. Le principe même de l'Église, c'est que c'est le Christ qui nous réunit et qu'on est tous membres de l'Église. Voilà. Et qu'il nous a donné une loi, c'est la loi d'amour, qu'il nous a donné une mission, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et un but, c'est de réaliser le royaume de Dieu ici-bas et qui va s'achever à la fin des temps. Comme on est le corps du Christ, alors c'est une chose un peu particulière, mais le Christ Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. Eh bien, l'Église, elle est aussi divine, c'est un mystère qui nous dépasse, et en même temps très humaine, avec des gens concrets, vous et moi, qui ont leur richesse, leurs caractéristiques, leurs limites, leurs péchés. Bon. Voilà. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout compris, mais on dit, ben voilà, il y a il y a un aspect de mystère dans l'Église qui nous dépasse complètement, donné par l'Esprit Saint, et puis une réalité très humaine, très concrète, très, bon. C'est une fraternité, la famille de Dieu, je l'avais déjà un peu, voilà. Et puis, l'Église, elle a un but, donc c'est de rayonner de l'amour du Christ pour nous. Et donc, le pape Paul VI, en 1975, écrivait « L'Église existe pour évangéliser », c'est-à-dire pour propager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Voilà. Et pour cela, on l'a déjà évoqué une fois récemment, l'Esprit-Saint donne à l'Église des charismes, c'est-à-dire des dons pour que l'Évangile puisse se répandre. Et donc, une des questions, c'est quel est le charisme que Dieu me donne dans l'Église pour que je contribue à l'évangélisation. Et, de fait, cette Église, elle n'est pas une espèce d'anarchie sympathique, elle est structurée par, non pas par une organisation, mais par ce qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Je m'explique. Jésus a choisi des apôtres. Et les apôtres ont imposé les mains à des successeurs des apôtres qu'on appelle des évêques. Les évêques ont choisi des collaborateurs à qui ils ont imposé les mains, qui sont les prêtres. Et donc les évêques aujourd'hui, qui sont responsables dans des diocèses, sont les successeurs des apôtres. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a la succession exacte. Par exemple, à Lyon, on sait que l'évêque d'aujourd'hui, Mgr de Germay, il est le successeur de Mgr Barbarin, etc., etc. Et on remonte ainsi, on a la liste complète jusqu'à Saint-Irénée, deuxième évêque de Lyon, Saint-Potin, premier évêque de Lyon, qui eux-mêmes sont en lien avec un évêque en Turquie actuelle, Saint-Polycarpe, lui-même disciple de Saint-Jean. Donc on a ce qu'on appelle la succession apostolique depuis les évêques. Et la mission des évêques et des prêtres est elle est triple, elle est à la fois d'enseigner la parole de Dieu, voilà ce que je fais avec vous ce soir, de célébrer les sacrements, et de conduire, de guider le peuple de Dieu au nom du Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pape n'est pas le supérieur hiérarchique des évêques, l'évêque il n'est pas le supérieur hiérarchique des prêtres, et les prêtres ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des fidèles que vous êtes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand on garde bien, Jésus explique aux apôtres qu'ils sont au service des autres. Ce n'est pas un pouvoir, c'est un service. D'ailleurs, on dit que le pape, il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Il est au service. Alors, le service, évidemment, quand il nomme, quand il organise, l'évêque m'a demandé de venir ici comme prêtre, bon, je lui obéis, mais on est d'abord au service, et le but, c'est que l'ensemble de l'Église, des fidèles, c'est les baptisés, et moi aussi, je suis un des fidèles du Christ, ensemble, on soit des saints, qu'on forme des communautés qui soient saintes et missionnaires. Et je termine par ce qu'on appelle les quatre notes de l'Église, les quatre caractéristiques de l'Église qu'on professe dans le « Je crois en Dieu » le dimanche à la messe, dans la première formule du « Je crois en Dieu ». On dit que nous croyons que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Une parce qu'elle tire son origine de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a un fondateur qui est le Christ Jésus. Il y a le don de l'Esprit-Saint qui répand l'amour entre les membres de l'Église, qu'on a une foi commune. Hein. Voilà. Et en même temps, c'est le paradoxe, c'est que cette Église, elle est marquée aussi par des divisions. Vous avez entendu parler sans doute des protestants, des orthodoxes, etc. Au cours de l'histoire, il y a eu des divisions, mais Jésus a prié pour que l'Église demeure une, que ses disciples demeurent dans l'unité, et donc nous devons prier pour que l'Église retrouve l'unité que Jésus a voulu. L'Église est sainte parce qu'elle est habitée par l'Esprit Saint qui donne à l'Église tous les moyens de salut. On a une chance folle, quoi. On a la parole de Dieu à travers l'Écriture sainte, la Bible, les sacrements, les bénédictions, les ministères des prêtres, etc. On a plein de moyens. Enfin, la prière, du chapelet, etc. Enfin, l'adoration eucharistique. Et donc des moyens de sanctification pour faire de nous des saints. Voilà. Et d'ailleurs, l'Église aime à canoniser, c'est-à-dire déclarer saints des gens qui sont morts et qui ont eu un rayonnement incroyable, hein, vous en connaissez, ça vaut le coup de connaître des saints, quoi. J'ai évoqué tout à l'heure Sainte Blandine, est-ce que vous connaissez le saint patron, le saint qui porte votre nom, ou est-ce que vous avez choisi un saint patron, ou est-ce que, bon, il faut les fréquenter, les saints, parce qu'ils nous aident à avancer dans ce chemin-là, de sainteté, et puis d'élan missionnaire, de don de notre vie à Jésus pour que d'autres découvrent son amour. Et en même temps, vous et moi, on est pécheurs, on le reconnaît. D'ailleurs, toutes les messes, on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on est appelé à se purifier pour être pleinement saint. Donc l'Église, elle est à la fois sainte et constituée de pécheurs. L'Église est catholique. Catholique en grec, ça veut dire de par toute la terre. Donc elle est universelle. C'est la même Église par toute la terre. Alors parfois avec des rites, des façons de prier différentes, mais c'est la même Église. Voilà. Et en plus, elle est envoyée par le Christ à tous les hommes. Tous les hommes sont destinataire de la bonne nouvelle du salut. Puis on dit qu'elle est apostolique, c'est-à-dire qu'elle repose sur la foi des apôtres. Apostolique, ça vient d'apôtre. Et puis elle continue à être dirigée, à être conduite par les successeurs des apôtres, que sont les évêques en communion avec le pape. On m'a demandé de terminer à 20h. Il est 20h. Voilà. Et donc, je vous invite à relire le texte de la Pentecôte, Actes chapitre 2, et en fraternité, à continuer à réfléchir sur ce que fait l'Esprit Saint. Et puis, à vous poser la question, dans le fond, qu'est-ce que vous avez déjà vu dans votre propre vie de l'action de l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint, il n'est pas réservé à ceux qui sont baptisés et confirmés. Il continue déjà à se donner à vous aujourd'hui. Et puis, l'Église a un cadeau que Dieu nous fait. Qu'est-ce que vous avez déjà découvert de la beauté de l'Église ? Voilà.